Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Benjamin Sportou, je recevais donc ce matin Emmanuel Béart.
Bonjour Emmanuel Béart.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RTL. Vous avez toujours été engagé, Emmanuel Béart, dans des causes humanitaires. Cette fois, c'est à l'opération Stop à l'exclusion énergétique, avec notamment le Secours catholique, que vous prêtez votre notoriété pour venir en aide à ces millions de Français qui vivent dans des logements mal isolés, vétustes et qui souffrent du froid l'hiver. Pourquoi cette cause vous touche-t-elle en particulier? Est-ce que vous avez rencontré des Français concernés par ce fléau?
Alors oui, j'ai été à la rencontre. Donc c'est la Fondation des Transitions qui est venue vers moi, qui m'a demandé si je souhaitais m'engager. Ce à quoi j'ai répondu, je ne peux m'engager que si je vais rencontrer les gens qui sont concernés par cette problématique de la précarité énergétique. Et pourquoi? Parce que je me suis aperçue qu'il y avait à peu près 12 millions de personnes, 6 millions de foyers, plus d'un million de personnes qui vivent dans une précarité énergétique, c'est-à-dire qui sont dans des logements où ils ont froid l'hiver, où ils ont chaud l'été parce qu'il y a de plus en plus de canicules, dans des logements qui sont absolument insalubres, où il y a de la moisissure, où les draps sont mouillés, où les vêtements sont mouillés, où les sanitaires ne marchent pas, où l'air est irrespirable. Donc je me suis dit, voilà, on est en France, on ne cesse de nous parler d'écologie, de transition écologique, et là, on est confronté à un problème qui est extrêmement passionnant aussi, extrêmement douloureux et extrêmement passionnant, parce qu'il fait appel à l'économie, à l'écologie, au social, enfin, des choses qui sont inextricables. C'est important de les lier tous. Donc, c'est... Voilà une des raisons. Et puis après, il y a le lien qui s'est créé avec ces gens qui m'a fait me dire que j'allais me battre.
Le gouvernement a pourtant lancé un plan pour isoler les logements avec des aides importantes. Vous estimez que c'est insuffisant?
Oui, c'est insuffisant. Alors après, il y a des choses qui sont faites, mais il y a effectivement l'État, il y a effectivement les collectivités territoriales, parce que quand on monte un dossier, quand on est éligible et qu'on monte un dossier pour qu'il y ait une rénovation complète des logements, parce qu'il faut qu'elle soit pérenne. Il y a effectivement l'État, il y a les collectivités territoriales, mais il y a beaucoup de fondations, il y a beaucoup d'ONG, il y a beaucoup... tout ça représente à peu près 90%, et il y a ce fameux reste à charge qui est à la charge des familles. Donc ce 10% qui représente 5 000 euros, 10 000 euros, il est tout à fait impensable et impossible pour ces familles. Voilà, je parle aussi, peut-être important de le préciser, de gens qui vivent avec moins de 10 euros par jour.
Et avoir froid, ça a aussi des conséquences sur la recherche d'un emploi, par exemple.
Évidemment, mais c'est là aussi, ça, on touche à tout. On touche à l'emploi, on touche au lien social, on touche à la santé. Donc oui, ce sont des gens qui se désociabilisent, ce sont des gens qui souvent perdent leur emploi, ce sont des gens qui tombent malades, ce sont des enfants qui ont des maladies respiratoires, ce sont des adultes qui ont des maladies graves, ce sont des gens âgés aussi qui ont peur, enfin qui deviennent âgés et qui ont peur de vieillir dans ces conditions-là, qui ressentent un profond abandon. Il y a aussi une chose, c'est-à-dire que moi j'ai rencontré ces gens-là, il y a une honte de ce qu'ils vivent. Alors c'est fou d'imaginer que ces gens ont honte, parce que ce qui est honteux, c'est une société qui les laisse vivre dans ces conditions-là. Et c'est effectivement un État qui n'agit pas assez par rapport à cette problématique.
Alors, on sait que vous êtes engagé, je le disais au début de cet entretien, dans beaucoup de causes, hein, vous l'avez été dans le passé. Mais en même temps, ceux qui nous écoutent se disent peut-être, quand on est une star avec un certain confort de vie, est-ce qu'on est le mieux à même de comprendre cette précarité, de parler au nom de ceux qui en sont victimes?
Bon, déjà, on n'a pas toujours été une star, donc on a vécu, et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a vécu des situations, on a vu des gens les vivre, donc, et puis je pense que finalement, quoi, je devrais être connue et ne pas utiliser cette possibilité, parce que qu'est-ce qui est important là? C'est effectivement de faire avancer les choses d'un point de vue politique, économique, mais ce qui est important aussi, c'est de dire aux gens qui vivent dans ces conditions que les aides, qu'il y a des aides existantes, qu'elles sont possibles et qu'il faut se renseigner pour savoir comment y avoir accès, comment être éligible. Donc, si moi, je peux passer à RTL pour dire oui, prenons conscience, nous tous, faisons un don, formons des gens, ils cherchent aussi des bénévoles, mais aussi à tous les gens qui se disent peut-être que j'ai le droit, moi aussi. Moi aussi, je suis peut-être éligible à cette rénovation énergétique. Alors pourquoi ne pas me servir de ce que je suis, de la femme que je suis et voilà.
Et jeune aussi, vous aviez, vous le racontez, eu des coupures d'électricité à la maison.
Ouais, par exemple.
Pas de chauffage.
Ouais, ouais, par exemple, pas de chauffage, pas d'électricité, mais on vivait dans le midi, donc les choses étaient plus soutenables.
Vous dites quoi alors aux ceux qui vous écoutent aujourd'hui pour venir en aide à ces gens qui souffrent d'exclusion?
Alors,
qu'est-ce qu'ils peuvent faire?
Il faut aller sur le site Stop Exclusion énergétique. Et sur le site, on trouve le film que nous avons tourné, et puis qui sera aussi sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a plusieurs façons d'aider. Il y a des formations qui peuvent être faites, il y a des dons qui peuvent être faits. Il faut aller sur ce site et vous trouverez exactement ce dont ils ont besoin.
Mmh. Dans cette période, Emmanuel Berrère, certains en appellent à une contribution, à un impôt de ceux qui sont les plus aisés. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous y seriez prête?
Oui, moi je pense, de toute façon, moi je suis pour l'impôt. Je suis pour l'impôt pour tout le monde, en fait. Je trouve que c'est une participation à la société dans laquelle on vit. Donc oui, tout à fait.
Une contribution exceptionnelle.
Oui, tout à fait.
Et vous appelez le gouvernement à faire plus qu'il ne fait aujourd'hui?
Mais évidemment, oui. C'est d'ailleurs fou et paradoxal quand on voit qu'effectivement la transition énergétique, quand on voit tout ce qui est fait autour de l'écologie, qu'on puisse laisser ces gens-là dans des bâtiments qui sont tout à fait insalubres, qui polluent, qui créent du CO2 et là où l'air intérieur est absolument irrespirable. Ça va pas, quoi. Il y a quelque chose qui déconne dans la façon dont tout ça est appréhendé.
C'est un combat que vous pourriez mener politiquement ou pas?
Je sais pas, il faut voir comment il faut voir de quelle façon je peux être la plus utile possible. Ça, c'est important. Ça a toujours été très important dans ma vie. Je me suis toujours demandé où étaient les limites aussi de l'engagement. C'est-à-dire à quel moment je suis utile, à quel moment je ne le serai plus. Donc, pour le moment, on en est là.
Il était plutôt à gauche, mais votre engagement. Est-ce que justement, il peut se manifester comme ça?
Il est toujours à gauche. Mon engagement, il est toujours à gauche, même si je pense qu'il y a des gens absolument formidables aussi à droite, et puis des cons à gauche. Mais mon engagement, il est à gauche, oui.
C'est-à-dire que pour la présidentielle, vous pourriez vous engager auprès d'un candidat? Vous l'avez pour Ségolène Royal, par exemple.
Oui, je l'avais fait pour Ségolène Royal, mais aujourd'hui, ce serait plutôt un combat écologique.
Donc auprès des Verts?
Gauche.
Gauche, qui?
Des Verts gauche, je ne sais pas encore. Ouais.
Mais Emmanuel Macron lui-même, est-ce que vous lui lancez un appel personnel? Est-ce que vous l'avez sensibilisé à la question?
Non, mais il y a un ministère des transitions énergétiques, donc que ce ministère fasse son boulot.
Vous avez vu la ministre, Emmanuel Macron?
Non, pas du tout. On est au tout début de l'histoire, là. J'ai rencontré des familles, je suis retournée les voir, je les ai approchées tout doucement parce que c'est délicat. Donc je suis au tout début de cette histoire.
On est en pleine pandémie, donc et beaucoup de personnalités du monde du spectacle demandent la réouverture immédiate des théâtres et des cinémas. On passe à un autre sujet.
Alors là, on est dans un autre sujet.
C'est une question sur laquelle je voudrais quand même revenir avec vous. Est-ce que vous êtes dans une priorité? Pour vous, c'est l'exclusion énergétique aujourd'hui. Est-ce que pour vous, c'est la priorité du moment que de demander cette réouverture des cinémas,
évidemment,
des théâtres?
Je fais partie de ce collectif-là. Je fais partie de ces gens qui n'entendent pas et qui ne comprennent pas pourquoi on ne rouvre pas les théâtres, pourquoi on ne rouvre pas les cinémas, pourquoi on ne rouvre pas les musées. Je suis effectivement aussi dans cette manque de dynamique. J'ai un film qui doit sortir depuis un an et qui est stocké dans un placard. Je devais commencer un autre film, je devais jouer au théâtre. Tout ça, c'est ma vie, tout ça, c'est mon travail, c'est important. Mais je pense à tous les autres aussi, à toutes les petites compagnies théâtrales qui n'auront pas leurs subventions, je pense. Donc il y a une incompréhension totale. Alors maintenant, ils ont fermé les grands magasins, mais enfin, on a eu des images de grands magasins, on a des images de... Enfin, c'est comme si la culture, dans le fond, n'était pas essentielle. Or, je pense qu'elle l'est d'autant plus. Et je sais que les gens s'en rendent compte. Je sais que les gens ont besoin de voir des films. Je sais que les gens ont besoin de lire. C'est évident que c'est essentiel pour la santé mentale et physique. C'est évident.
Mais c'est pas un sacrifice nécessaire pour garantir la santé des Français?
Non, mais alors, il faut être logique. Il faut que enfin, je veux dire, quand on va au théâtre, moi, j'ai été au théâtre au début de l'épidémie. Il n'y a aucun risque, c'est prouvé. Donc voilà.
Dans quelques jours, il y aura la cérémonie des Césars. Mmh. Emmanuel Berrère, l'année dernière, à la même époque, Adèle Haenel avait quitté la salle pour protester contre la récompense remise à Roman Polanski, accusé de viol par une dizaine de femmes. Qu'est-ce que ça a provoqué chez vous? On ne vous a pas entendu sur ce sujet-là?
Je suis ravie de voir et heureuse et profondément heureuse de voir que les paroles, que les femmes prennent la parole sur divers sujets, puisqu'il y a eu MeToo, mais il y a MeToo inceste. Donc il y a des femmes qui prennent la parole et je trouve ça très bien.
Est-ce que vous-même, dans votre longue carrière, vous avez eu à subir des propos, des gestes déplacés ?
Oui.
Vous avez accepté l'inacceptable ?
Non, j'ai pas accepté l'inacceptable parce que j'avais un caractère extrêmement dur et donc je me suis défendue, mais j'aurais pu ne pas avoir cette nature-là et être prise aussi dans un piège terrifiant.
Est-ce que le monde du cinéma, du théâtre a fait son ménage ou il y a encore à faire pour vous ?
Bah, déjà, il n'y a pas assez de femmes réalisatrices, pas assez de femmes productrices. C'est quand même encore un monde très, très, très masculin.
Et vous avez envie de vous engager dans ce combat-là, justement ?
Chaque combat, chaque étape, chaque chose en son temps.
Vous vous définiriez comme féministe ?
Alors moi, j'ai été élevée par une mère qui était 68 tardes et qui était vraiment une grande, grande féministe. Ma grand-mère aussi l'a été. Donc moi, dans un premier temps, j'ai eu le réflexe qu'au contraire. Et puis, de plus en plus, je trouve que les femmes prennent la parole de façon extrêmement percutante, extrêmement intelligente, extrêmement sensible. Donc oui, je suis féministe, oui.
Donc, ce qui concerne Stop à l'exclusion énergique, je rappelle donc que pour faire un don et aider à améliorer le quotidien de Français mal logés, il faut aller sur le site internet stopexclusionénergétique.org. On peut faire des dons, mais on peut aussi faire apporter du matériel, c'est ça ?
Oui. On peut faire des formations aussi pour les entreprises, pour le bâtiment. On cherche des bénévoles aussi parce que ce qui est très important à comprendre, c'est qu'effectivement, dû à cette difficulté, cette honte à faire entrer les gens chez eux, c'est souvent les bénévoles du Secours catholique ou de la Fondation Abbé Pierre ou du Secours populaire qui vont à la rencontre des gens qu'ils identifient aussi parce que souvent, ce sont des gens qui restent silencieux et invisibles. Et ils les accompagnent à accéder que des gens puissent venir chez eux, constater et à faire les dossiers. Donc, si vous allez sur le site Stop Exclusion Énergétique, vous comprendrez mieux tout ce qu'il est possible de faire.
Merci beaucoup Emmanuel Béart. Bonne journée à vous.
L'engagement d'Emmanuel Béart sur RTL afin de combattre l'exclusion énergétique avec le Secours catholique. Toutes les informations, je vous le rappelle, sur l'opération sont donc disponibles.